Aujourd'hui, on va donc traiter le thème de la patience, de l'irritabilité et de la colère. On ne va pas aborder le jugement, parce que je pense que c'est vraiment important de faire un gros focus sur la colère. Parce que je pense que si on est tous humains, on s'est tous mis au moins une fois en colère dans la semaine qui vient de passer. Voilà, pour une raison ou pour une autre. Voilà, donc... En tout cas, pendant cette semaine qu'on a eue avec Tatiana, on se disait, ouais, c'est bien. Enfin, moi, je me disais, ouais, c'est bien, on est tous les deux et tout, mais il y a plein de gens autour de nous, on ne les connaît pas. Et après, on va retourner au travail, mais juste avant, c'est juste génial de pouvoir passer ce week-end ensemble, de passer un moment de communion fraternelle avant de repartir. Et en fait, ce week-end de rentrée, c'est un peu notre week-end de rentrée avant de repartir dans le monde, de partir travailler, de partir étudier. Donc, c'est vraiment avec une grande joie qu'on est là parmi vous aujourd'hui. Et ouais, enfin, j'espère en tout cas que c'est assez communicatif. Voilà. Alors, on va aborder direct. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que Mike vous avait rappelé encore sur les 7 pistes? Vous vous rappelez ou pas? La première piste pour combattre nos péchés subtils, c'est... Non, en fait, il y a 7 points. Alors, vous pouvez les mémoriser, CCPPNPC. Pourquoi CCPPNPC? Le premier C, c'est considérer le péché à la lumière de l'œuvre de Christ à la croix pour nous. Donc, savoir que Dieu nous pardonne à travers Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est le deuxième C, c'est compter sur la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va agir en nous. Troisième lettre, c'est le P, donc premier P, CCP. Prendre conscience de notre responsabilité en tant que chrétien. En tant que chrétien, nous devons avoir une conduite digne d'un saint. Et l'autre P, qui veut dire prendre conscience de nos péchés qui sont dits acceptables. Ensuite, NPC, donc le N pour dire nous attacher à la parole, le P pour dire persévérer dans la prière, et le dernier C pour dire combattre avec les frères et sœurs. Alors, je crois qu'il n'y a pas tout le monde qui est là. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut chercher une grâce? Je sais pas si...
Elle
était
là.
Elle est partie.
Elle est venue...
Ok, je crois qu'elle a dormi. Ou...
D'accord. Non.
Ok, ça marche. Alors, donc voilà, CC, PP, NPC, ok? Essayez de retenir ça, c'est un peu les 7 pistes clés qu'il faut que vous gardiez en tête à la concertée de ce week-end, voilà. Donc on va aborder l'impatience et l'irritabilité. Alors vous savez, Mike en a déjà parlé, quand on est en dehors de chez nous, voilà, on a un peu notre casquette de chrétien, on est super chrétien, on est là à l'église, on fait la louange, on est actif, on est proactif, et c'est génial. Mais une fois à la maison... When you're back home, nang lalai kasihau, jai jai, su house, c'est là que ressort notre véritable caractère. Et ça peut s'exprimer de deux façons, notamment par deux péchés qui sont l'impatience et l'irritabilité. Donc considérons d'abord l'impatience. L'impatience, selon Luther, est considéré comme une forte réaction de mécontentement, d'exaspération par rapport à des erreurs des autres qui sont généralement involontaires. Cette impatience, elle est exprimée souvent verbalement, mais ça peut être humiliant pour la personne à qui on parle. Alors c'est vraiment important de rappeler que souvent, la plupart du temps, l'impatience, c'est lié à une erreur de l'autre qui est involontaire ou non intentionnel. La personne n'a pas fait exprès de devoir faire attendre. Voilà. Alors pourquoi c'est un péché? Alors, avant de dire pourquoi c'est un péché, j'ai regardé le fait que la patience, selon la Bible, c'est une vertu qui est requise chez les chrétiens. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4, vous connaissez, souvent c'est un verset qui est utilisé pour le mariage, sur l'amour, et Paul commence en disant « l'amour est patient ». D'autre part, on a déjà dit, Galates 5, versets 22 à 23, les fruits d'esprit, les 9 expressions du fruit d'esprit, on a la patience, l'amour, la joie, la paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La patience. Dans Éphésiens 4, versets 1 à 2, Paul nous encourage à nous supporter les uns les autres avec patience. Et enfin, dans Colossiens 3, verset 12, il nous appelle à nous revêtir de patience. Je vous invite à pas forcément lire des textes directs parce que voilà, je vais assez vite, mais notez ces références et étudiez-les à travers un petit groupe, ça peut être intéressant. Donc, on voit que d'un côté, Dieu nous appelle à avoir cette vertu qu'est la patience. Et de l'autre côté, eh ben, l'impatience, c'est le contraire. Donc, le contraire de ce que Dieu demande, le contraire de cette vertu. Et donc, en toute logique, finalement, ben, le contraire de ce que Dieu nous demande, c'est un péché. Et c'est un péché subtil. C'est un péché que nous devons faire mourir dans notre vie. Et même s'il peut paraître acceptable à nos yeux, ce péché, il ne l'est pas pour Dieu. Alors, je vais donner quelques exemples concrets. Souvent, on me dit, comment ça, je vais mettre ta vie dans les exemples concrets. Donc, par exemple, ça peut être l'attente de ma femme ou de mon frère pour aller au culte, pour aller en voyage. Voilà, oh là là, mais quand est-ce que tu es prêt et tout. Enfin, impatience. Répétition de mots par rapport à quelqu'un, vous savez, qui est un peu dur d'oreille. Des fois, il faut répéter à un moment donné, et c'est un peu fatigant de répéter toujours les mêmes choses. Une répétition d'ordre de la part des parents à leurs enfants. Mais je t'ai dit de te laver, ça fait 3 fois, je te le dis, je t'ai dit de bosser ton code, ça fait 3 fois. Et je ne vise personne. Et selon la manière dont ça peut être dit, ça peut blesser l'autre. Ça peut être aussi la conduite automobile non chrétienne. Enfin, non chrétienne, parce que certains d'entre nous, quand on rentre dans la voiture, on cesse d'être chrétien, enfin, d'avoir une attitude chrétienne. Moi le premier. Hein. Ouais, et en plus j'ai un poisson derrière. Ça peut être aussi une queue qui est longue à la caisse du supermarché, à la banque, au restaurant. Qui est-ce qui a jamais soupiré, vas-y, c'est nul, il y a tellement de queue là. Qui l'a déjà fait? Qui a déjà respecté devant la caisse? Ok. Ou alors ça peut être, vous êtes à la poste, vous faites la queue, vous voulez juste acheter un timbre. Et la personne de devant vous, elle a 10 colis à envoyer à l'autre bout du monde. Elle a pas fait exprès, je veux dire, voilà, c'est juste voilà. Et ça peut être intéressant de demander à nos proches, ceux avec qui nous vivons tous les jours, dans quelles circonstances se manifeste notre impatience. Toutefois, ce ne sont pas les circonstances qui nous rendent impatients, mais par contre, les circonstances, elles donnent l'occasion à notre péché de s'exprimer, de se manifester. En fait, la véritable cause de notre impatience, elle se trouve dans notre propre cœur et dans nos désirs que les autres se conforment à nos attentes et à nos exigences. Je m'attendais à ce que, tac, 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 mais en fait, ça ne se passe pas comme je voulais. Et du coup, bah, c'est ça qui fait que j'ai cette impatience, que je ressens ce péché subtil. Passons maintenant à l'irritabilité. Alors, l'irritabilité, c'est la facilité avec laquelle on peut s'impatienter à la moindre occasion. En gros, c'est une personne qui est toujours impatiente. Toujours, ah, vas-y, j'ai toujours marre d'attendre. Oh là là. Une personne prompte à s'impatienter est irritable. Alors, c'est sûr qu'on est tous plus ou moins impatients, hein, ponctuellement, mais lorsque nous sommes irritables, nous sommes impatients la majeure partie du temps. Pourquoi c'est un péché? Ben, c'est assez logique, si l'impatience est un péché, le fait d'être beaucoup, beaucoup impatient, et donc d'être irritable, on est également un. Donc, si nous sommes nous-mêmes visés par une personne qui est impatiente, il y a deux attitudes bibliques. Donc, la première, c'est suivre l'exemple de Jésus. 1 Pierre 2, verset 23. Insultez, ne rendez pas l'insulte, maltraitez, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettez à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, verset 23. Et si on suit l'exemple de Jésus, ben, il faut aussi avoir, par exemple, une attitude de sagesse. Proverbe 19, verset 11. L'homme avisé est lent à la colère. Il faut garder en tête que l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, verset 8. Il ne faut pas répondre de la même manière que l'autre, sinon ben, il va y avoir une escalade de mots. Si je vois que Abraham il est énervé, que moi ben, je hausse le ton, ben, Abraham va encore hausser le ton, puis après ben, ça va péter quoi. Et également ne pas fulminer intérieurement, ne pas intérioriser cette colère et en vouloir à la personne qui nous a manifesté son impatience, parce que ça aussi c'est un péché. C'est pas parce qu'on le montre pas, mais si on le garde pour soi et qu'on fumine intérieurement, c'est également un péché. Ça, c'est la première solution biblique face à quelqu'un qui est impatient. C'est ne pas répondre, avoir l'exemple de Jésus qui insultait, ne rendait pas par l'insulte. La deuxième solution biblique, c'est de mettre la personne qui est continuellement impatiente envers nous face à son impatience, et lui citer des exemples concrets, pas lui dire tu, mais plutôt lui dire quand tu fais ça, moi je ressens ça, quand tu m'as dit ça, ça m'a blessé, et de le dire avec douceur. Mais avant de reprendre la personne, je pense qu'il est vraiment important de d'abord régler notre propre problème, notre propre cœur, et notamment de pardonner à la personne et chercher le bien de la personne et non uniquement notre propre confort. Quand j'en veux à quelqu'un, c'est important d'abord de régler les choses avec Dieu avant d'aller voir la personne. Parce que quand on se met en colère, et ça on va le voir encore après, la première personne qu'on concernée, c'est Dieu en fait. Parce que c'est un péché, et quand on commet un péché, la première personne qui est concernée, c'est Dieu. Donc il y a deux possibilités ensuite, une fois qu'on a repris la personne. Si l'autre personne accepte ce que nous lui disons, la relation sera fortifiée. Matthieu 18, verset 15, par exemple. En revanche, si la personne refuse totalement de reconnaître son impatience et se vexe ou devient agressive, il faut revenir à la première attitude, de suivre l'exemple de Jésus. Bien que ce soit plus facile à dire qu'à faire. Mais vraiment, je pense et je crois fermement qu'en se basant sur la souveraineté de Dieu, nous croyons que Dieu utilise le comportement de cette personne pour nous aider à grandir en douceur, en humilité. Pensez à Nombre 12, versets 1 à 3, et encore les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, Galates 5, versets 22 à 23. Et enfin, par rapport à cela, je pense qu'il faut aussi être sévère, aussi sévère envers nos propres péchés qu'envers ceux des autres. Souvent, on voit les autres, c'est un peu ça vient de l'orgueil. Hein. On voit les péchés des autres, notre propre justice, mais on ne voit pas les nôtres. C'est toujours les autres qui sont comme ça, mais moi non. Et donc, ne pas imiter le pharisien dans le temple, et ça, Mike l'a très bien rappelé hier, dans Luc 18, verset 11, et plutôt imiter le collecteur d'impôts. Luc 18, verset 13. Alors, les solutions que j'ai partagées, c'était quand on était visé nous-mêmes par une personne qui était impatiente. Mais quand c'est nous-mêmes qui sommes impatients, qui sommes irritables, les pistes pour y remédier sont plus générales, hein, de la toute première prédication avec les CC, PP, NPC. Voilà. Je vous invite juste à avoir un petit court moment d'introspection et puis je vais prier avant de reprendre pour la colère. Demander à Dieu dans quelle mesure notre impatience, notre irritabilité s'est exprimée. Seigneur, on te prie pour que tu nous aides à passer à travers le crible de ces 7 étapes. Ce ne sont pas 7 étapes miraculeuses, magiques, mais je crois que c'est des pistes que tu peux nous donner pour nous sanctifier encore davantage. Et Seigneur, avant tout, on veut te remercier parce que en Christ, tu nous as pardonné de nos péchés. Quelle joie d'avoir cette assurance que, avant même que nous te demandions pardon, tu nous pardonnes, Seigneur. Merci d'avoir cette foi. Je te remercie également pour le Saint-Esprit qui vient nous, qui est en train peut-être de pointer des moments où on était impatient, peut-être des moments où on n'a même pas demandé pardon à la personne concernée. Que vraiment, Seigneur, tu puisses nous guider par rapport à ça. Et Seigneur, on te prie également pour que tu nous aides à prendre conscience de notre responsabilité qu'on a en tant que chrétien. D'être patient, d'avoir cette vertu, d'avoir cette expression du fruit de l'esprit. Je te prie également que tu nous aides à prendre conscience de ce péché acceptable qui est l'impatience, qui est l'irritabilité, Seigneur, et que tu nous aides à ne pas fermer les yeux sur ce péché. Aide-nous enfin à nous attacher à la parole, à mémoriser des versets par rapport à cela, à persévérer dans la prière. Et surtout, Seigneur, à trouver des frères et sœurs avec qui combattre contre ce péché d'impatience. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, après avoir vu l'impatience et l'irritabilité, je propose maintenant de passer une bonne partie sur la colère. Alors, d'après le petit Robert, la colère est un violent mécontentement accompagné d'agressivité. Violent mécontentement accompagné d'agressivité. On peut aussi rajouter, en tant que chrétien, que ça s'exprime souvent par des réactions, des paroles et des comportements pécheurs qui font du mal à ceux qui sont visés par notre propre colère. Des réactions, des paroles, des comportements pécheurs qui font du mal à ceux qui sont visés par notre propre colère. Avant de dire pourquoi la colère est un péché, on va d'abord voir ce qu'on appelle peut-être la colère juste. Ah, mais c'est normal que je me sois énervé, etc. Quelle serait cette colère juste dont parle la Bible ? La seule colère juste, selon la Bible, est celle qui est centrée sur le Seigneur et sur sa volonté, et non sur nous-mêmes et notre propre volonté. Par exemple, Jésus, si vous prenez Jean 2, versets 13 à 17, il rentre dans le temple et il voit des marchands de brebis, de moineaux, etc. Il se constitue un fouet et il chasse du temple les marchands. Donc on voit bien que Jésus est en colère, hein. Je ne pense pas qu'on s'amuse à prendre un fouet et à fouetter comme ça pour s'amuser. Je pense vraiment qu'il est en colère, mais c'était une sainte colère parce que le temple de Dieu était habité par ces idoles, en fait, par des commerçants qui n'avaient rien à faire avec la sainteté de Dieu. Et comme s'il en va de la sainteté de Dieu, du Seigneur, c'était juste de la part de Jésus de se mettre en colère. Et cette colère juste, elle a été maîtrisée. Elle ne nous conduit jamais à part notre sang-froid et ni à vouloir nous venger. Donc le seul exemple de colère juste, le seul exemple de colère juste qu'on peut considérer, c'est celle qui est centrée sur le Seigneur et aucune autre. Pourquoi, de manière générale, la colère est un péché? Souvent, on est en colère par rapport à des comportements ou à des paroles des autres. Et ce qui nous affecte le plus, souvent, ce n'est pas vraiment que la loi de Dieu a été transgressée, ce qu'on appelait la colère juste tout à l'heure, mais c'est le tort qui a été commis envers nous. Donc je ne vais pas parler des colères violentes, verbales, physiques, parce qu'il y a des auteurs qui ont écrit vraiment sur ça, et je ne suis pas du tout spécialiste par rapport à ça, mais juste à aborder la colère que nous acceptons, qu'on tolère dans notre vie, et qui peut s'exprimer soit par des paroles dures ou blessantes, ou qui font qu'on déprécie la personne de manière un peu plus subtile, insidieuse, et qui font qu'on se moque de cette personne. Il faut aussi savoir que personne ne nous met en colère. Souvent, les paroles, les comportements des autres suscitent notre colère, mais la véritable cause se trouve au fond de nous-mêmes. Et généralement, ça renvoie à notre orgueil, notre égoïsme, à notre désir de tout contrôler. On va prendre des exemples. Je peux être en colère par rapport à par exemple, Alain. Alain, il m'a promis qu'il allait me réparer mon ordinateur et l'ordinateur d'un pote. Mais finalement, Alain, il a oublié mon rendez-vous, donc il n'est pas venu. Du coup, je suis quand même un peu vert, je suis un peu en colère quand même, et je dis, Alain et tout, pourquoi t'es pas venu? Franchement, c'est abusé et tout. Et pourquoi je suis en colère, en fait? Parce qu'en fait, j'étais dans une situation délicate par rapport à mon pote, j'étais, ouais, tu sais quoi, j'ai un gars et tout, il est super fort, et du coup, je me sentais mal par rapport à l'autre, et du coup, ça envoie à mon propre orgueil, en fait. Un autre exemple. Par exemple, Laurent, on dit du mal de toi, on fait des commérages sur toi. Et bien, peut-être, je peux t'énerver et te rendre compte, vas-y, c'est n'importe quoi, on a dit des choses sur moi, en plus, elles sont fausses et tout. Mais en fait, pourquoi tu te mets en colère? Tu te mets en colère parce que, en réalité, ça a contribué à ta mauvaise réputation, à la mauvaise image qu'on aurait de toi, que les autres ont de toi, et finalement le plus important c'est toi en fait, donc, c'est l'orgueil. Troisième possibilité, c'est quand les choses ne vont pas comme nous le voulons dans l'église locale, dans un couple. Et ça peut être l'exemple d'une personne qui a un fort caractère, un mari dominateur, qui veut contrôler les choses et qui peut s'énerver quand les autres s'y opposent. Donc ça peut être dans le cas d'un couple, ça peut être dans le cadre de l'église. Si je suis un diacre avec un fort caractère, j'ai envie de tout contrôler et tout ça, et qu'il y a des personnes qui s'opposent à ce que je dis, pas forcément de manière fausse, hein, qui s'opposent, et ben c'est de l'égoïsme, ça renvoie à mon propre égoïsme. Et enfin, ça peut être aussi notre réaction face à la colère de l'autre. On peut intérioriser ça, fulminer intérieurement avec amertume, par exemple quand ma femme m'a crié dessus, ou quand mon patron m'a repris devant les collègues, et moi qui suis un grand timide, je mets sous le tapis, Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Self Control avec Jack Nicholson. Qu'est-ce qu'il a vu ? Ok, ça montre à qui j'ai écouté le DVD. Ok, rien de chrétien, franchement, ne regardez pas le film, mais il est marrant. Et en fait, dans ce film, c'est un gars qui a soi-disant des excès de colère, et du coup, il doit se faire traiter à cause du juge par un psy. Et le psy, c'est Jack Nicholson. Et Jack Nicholson lui explique qu'il y a deux types de colère, enfin, il y a deux types de personnes qui réagissent à la colère. La première personne, par exemple, ça peut être Yada qui va faire les courses et qui n'arrête pas de crier sur, par exemple, la caissière parce qu'elle est trop lente. Parce que franchement, on se demande si elle a une seule main ou deux mains. Donc elle est trop lente. Et du coup, Yada, il s'énerve. Donc voilà, c'est la personne qui s'énerve, Yada. Donc c'est le client qui s'énerve face à la caissière. Première action, j'explose directement. Voilà, dès qu'il y a quelque chose qui m'irrite, je m'énerve. Deuxième réaction, ce que explique Jack Nicholson au film, et bien c'est la caissière qui, petit à petit, elle a encaissé les remarques de Yada, de Mike, de Laurent, de Denis, enfin à la fin, elle met sous le tapis, mais à un moment donné, la bosse sous le tapis, on trébuche dessus. Et à un moment donné, elle explose, elle prend le fusil, elle tue tout le monde. C'est le deuxième type de réaction. Voilà, c'est on intériorise, et à un moment donné, ça craque, et on n'en peut plus. Dans les deux cas, c'est un péché. Ils ne vont pas dire que c'est un péché dans le film, mais voilà. Ils nous racontent mieux que moi, mais j'essaie d'être aussi fidèle que possible. Donc, comment on peut régler ce problème de la colère ? Quelques pistes. Déjà, on peut choisir notre manière de réagir face à ces comportements pécheurs, à ces personnes qui nous ont énervés. Selon 1 Pierre 2, versets 18 à 20, on est appelé à garder une bonne conscience envers Dieu, même si le patron nous maltraite injustement. Dans ce cadre-là, c'était des esclaves qui étaient traités injustement par leur maître. Mais dans notre cadre aujourd'hui, si on est un patron qui nous maltraite, le plus important, c'est de garder une bonne conscience envers Dieu. On pourrait aussi se poser des questions. Comment Dieu voudrait-il que je réagisse maintenant face à cet affront ? Comment puis-je au mieux le glorifier par ma réaction ? Est-ce que je crois que ces circonstances difficiles, cette injustice, sont sous son contrôle souverain ? Donc ça renvoie à Romains 8, verset 28, à Hébreux 12, verset 4 à 11. Vous avez remarqué que la souveraineté de Dieu, je pense que c'est un élément hyper clé par rapport au fait de combattre le péché subtil. Quand on sait que, quel que soit nos péchés, quelle que soit la situation, on sait que tous les moments de notre vie sont inscrits, que Dieu les avait déjà prévus d'avance, que tout est sous son contrôle, on n'a plus à s'inquiéter, on n'a plus à s'impatienter, c'est normal, Dieu avait prévu ça. Alors oui, certes, je ne vois pas pourquoi ça s'est passé comme ça, mais après coup, je comprends. Et ça, c'est le fait d'avoir la foi. D'avoir foi dans cette souveraineté de Dieu. Et même après avoir réagi avec colère, ce qui est un péché, parce que ça arrive souvent, vas-y, je m'énerve, ok, mais ensuite je peux décider de demeurer dans cette colère, ou plutôt me poser les questions que je viens de dire. Et Je vous invite à vraiment laisser Dieu, par son Saint-Esprit, chasser la colère de notre cœur. Donc il faut reconnaître la colère et admettre le fait que c'est un péché. Il faut aussi se demander à quoi ça nous renvoie par rapport à pourquoi on est dans cet état. Est-ce que c'est à cause de notre orgueil? Est-ce que c'est à cause de notre égoïsme? De notre idolâtrie? Et donc se repentir par rapport à cet orgueil, cet égoïsme. Et ça, c'est, je renvoie à ce que Mike avait dit hier. On peut aussi changer d'attitude envers la personne. Ok, on est en colère au début, mais Éphésiens 4, verset 32 dit « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Et Colossiens 3, verset 13 « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Je vais revenir sur ça ensuite. Pourquoi il prend l'exemple de Christ qui nous a pardonné, donc pardonnez-vous aussi. Et ensuite, demandez pardon à cette personne blessée. Et enfin, abandonner à Dieu cette situation qui nous a mis dans cet état, parce qu'on croit à la souveraineté de Dieu. Et en gardant en tête que cette blessure que l'autre m'a faite peut soit à nouveau me pousser à la colère ou contribuer à ma sanctification. J'ai abordé un thème qui est la colère plus spécifique, qui est contre Dieu. Peut-être que vous avez entendu dans certaines, je sais pas, dans des prédications que certains chrétiens ressentent de la colère contre Dieu. Ils croient qu'ils sont déçus, ils croient que Dieu ne les aime pas, ils croient qu'ils se sentent abandonnés par Dieu. Et du coup, les psychologues leur répondent qu'il est juste d'en vouloir à Dieu. Mais selon la Bible, il n'est jamais, jamais, jamais juste de se mettre en colère contre Dieu. Parce que c'est un jugement moral. C'est comme si nous accusions... Merci. C'est comme si nous accusions Dieu d'avoir mal agi et d'avoir agi injustement. Et c'est aussi lié au fait que nous pensons mériter mieux de sa part. Nous oublions que Jésus, peu importe pour nous, que Jésus a souffert une agonie indescriptible pour payer la rançon pour nos péchés et que nous passions l'éternité avec lui dans le ciel au lieu de l'éternité en enfer. Et on va dire, ok, il y a Jésus et tout ça. Non, mais le plus important, c'est moi. Quelles pourraient être les solutions dans ce cas-là? Est-ce qu'il faudrait refouler nos sentiments, prendre de la distance par rapport à Dieu? Non. Il faut compter sur la ferme assurance que Dieu est souverain, qu'il est sage et qu'il est amour. On peut prier de la manière suivante, en lui apportant notre tristesse, dans une attitude d'humilité et de confiance. L'humilité qui est le contraire de l'orgueil qu'on a vu hier. On peut prier de la manière suivante. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et je sais aussi que tes voies dépassent souvent ma compréhension. Je reconnais que je suis actuellement dans le désarroi parce que je ne vois pas la preuve de ton amour envers moi. Aide-moi par la puissance du Saint-Esprit à te faire confiance et à ne pas céder à la tentation de me révolter contre toi. Souvenons-nous que Dieu pardonne ce péché et qu'il a déjà porté sur la croix. Donc en conclusion, souvent les chrétiens qui s'irritent se focalisent sur la faute de l'autre et justifient ainsi leur attitude. Ils ne voient pas leur propre péché de colère et considèrent l'attitude comme ok, acceptable, et ne ressentent pas le besoin de prendre le problème au sérieux. Maintenant, je vais un peu plus développer les fruits de la colère, ce à quoi la colère peut nous mener. Et la Bible nous exhorte à faire disparaître la colère, à y renoncer. Dans Éphésiens 4, verset 31, dans Colossiens 3, verset 8, et dans 2 Corinthiens 12, verset 20, Éphésiens 4, 31, Colossiens 3, 8, 2 Corinthiens 12, verset 20, la colère est associée à la fureur, aux éclats de voix, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés. Et elle nous pousse en quelque sorte vers ces péchés qui ont des conséquences plus graves. Et selon Éphésiens 4, verset 26, la colère est inévitable. C'est pour ça que Paul il exhorte à ne pas pécher et à ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Car au mieux, Éphésiens 4, verset 26, car au mieux c'est un péché, ce qui est déjà pas terrible, au pire elle pousse vers d'autres péchés qui sont encore plus graves et qui vont empoisonner notre cœur et le cœur de ceux qui nous entourent. Donc parmi les fruits de la colère, on va commencer avec le ressentiment. Le ressentiment, c'est lorsqu'on nous a fait du tort, mais qu'on ne pouvons rien faire de notre position. Par exemple, ça peut être le patron qui nous engueule. Je ne peux pas engueuler mon patron en retour. Et du coup, j'intériorise cette colère. C'est du ressentiment. Ça peut être aussi ce que l'épouse peut ressentir face à un mari dominateur, ou le contraire, un mari face à une épouse qui le persécute et qui le domine. Et du coup, cette personne qui a du ressentiment entretient sa blessure et pense sans cesse au tort qu'on lui a fait sans régler le problème. Et ce ressentiment, il peut se dissiper avec le temps. Contrairement au deuxième fruit que je vais aborder, le deuxième fruit qui est la rancune. Donc la rancune, c'est pas bien, hein, ça on le sait, ça on l'a même dit. Et en fait, c'est le ressentiment que l'on garde, mais accompagné d'hostilité. Et la rancune, c'est quelque chose qui continue à grandir, à empoisonner notre cœur, et qui engendre une animosité, une colère encore plus grande. L'auteur parlait d'un père, d'une fille qui a mal pris une situation qui était gérée par l'ancienne église. Donc, un des membres de l'église qui en a voulu à un ancien, parce que l'ancien n'a pas vraiment géré, selon lui, les choses. Et il a dit, je lui ai pardonné, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Mais le véritable pardon conduit à une restauration de la relation, et non à une animosité permanente. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a voulu à quelqu'un, ok, on lui pardonne, et qu'on va être les meilleurs amis du monde. Ce n'est pas ce que je dis. Juste qu'il doit y avoir une restauration de la relation. Tout ce que cet homme voit, ce père de famille, c'est la faute qu'il pense que l'ancien a faite, et il la garde en tête. Et malheureusement, alors là c'est un exemple fictif, enfin pas fictif, mais qui est arrivé là-bas, mais c'est un péché qui est très répandu, souvent dans les églises aussi, peut-être même dans notre propre église, il y a des personnes qui en veulent à d'autres personnes, alors que c'est des endroits où les personnes devraient s'aimer, on devrait avoir l'amour qui est au-dessus de tous les autres dons. Sachant aussi que quand on est blessé, on peut ne pas conserver cette rancune. Là, j'énumère vraiment tous les fruits. Et ensuite, on va expliquer comment régler ce problème en trois points. Donc, le ressentiment, la rancune, et maintenant l'inimitié, hostilité. Donc, inimitié et hostilité, c'est en deux mots synonymes par rapport au concept qu'on est en train de définir. C'est encore plus fort que la rancune. Ok, ressentiment, c'est je ne peux pas faire grand chose, mais bon, ça va partir. Alors, en plus, c'est quelque chose que j'alimente, ça reste dans ma tête, c'est toujours là. Et l'hostilité, c'est encore plus fort. C'est ça. Donc, la rancune, souvent, elle reste assez polie, elle reste dans le cœur de la personne blessée, elle en veut, mais elle ne règle pas forcément le problème. Et l'hostilité, elle s'exprime ouvertement, et il y a des paroles de dénigrement ou même des paroles de haine envers l'autre. Et ça a aussi par conséquence d'affecter l'entourage de la personne blessée. C'est, tu sais quoi, telle personne elle m'a blessé, mais je vais pas régler le truc avec lui. Et du coup, tu sais quoi, franchement je pense que cette personne-là, elle est pas bien et tu devrais pas la fréquenter. Donc non seulement j'en veux la personne, j'ai de la rancune, mais en plus je suis hostile, c'est-à-dire que je vais alimenter d'autres personnes pour qu'elles aussi ensuite, elles aient un point de vue hostile sur cette personne. Hostilité. Et c'est un péché. Maintenant, la haine. Dans la Bible, le mot haine est un mot qui est associé au désir de vengeance. Par exemple, dans Genèse 27, 41, Ésaü qui hait. Qui hait Jacob et décide de le tuer. Dans Genèse 50, verset 15, les frères de Joseph. Ils craignent qu'ils les haïssent et qu'ils se vengent de ce qu'ils lui ont fait. Voilà, c'est des exemples dans la Bible de haine. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus, quand on parle de haine, ce n'est plus trop associé au fait de tuer quelqu'un. Enfin, d'ailleurs, c'est un mot qui est encore moins utilisé. Enfin, en tout cas, je pense que dans nos milieux, on l'utilise un peu moins. Mais. Pardon ?
La xénophobie.
Xénophobie ?
La haine de l'autre.
Ah, la haine de l'autre race. Oui, la haine de l'autre race. Mais là, c'est vraiment par rapport à la colère qui était. Là, c'est vraiment un fruit de la colère. C'est pas la haine. Mais vraiment, là on va avoir la haine sous l'angle que bah, tu as laissé du ressentiment, de la rancune, de l'hostilité, et maintenant c'est vraiment l'escalade, quoi. C'est l'escalade. Je ne sais pas si vous connaissez Star Wars. La peur mène à la colère mène à la haine, et la haine mène à la souffrance, et la souffrance mène au côté obscur. Ah oui, non, mais c'est. Il y a beaucoup de valeurs spirituelles dans Star Wars, hein. Anakin, qui est né d'une femme, il n'y a pas eu de conception, elle dit, Chimmy Skywalker, Qui-Gon Jinn lui demande, mais d'où il vient, et d'où vient que tu as un fils, et elle dit, bah, je sais pas, il était conçu par la force.
Ah bon?
Oui. Épisode 1, Star Wars, 1 heure et 37 minutes. Non, je sais pas. Mais non, vraiment, elle dit ça, hein, elle dit ça. Et vraiment, il y a des images dans Star Wars, franchement, regardez Star Wars, c'est trop bien. Bon. Bon, sauf que c'est une image de Jésus, mais bon, Jésus, il n'est pas devenu méchant, et voilà. Ok. Alors, souvent, les personnes blessées, elles peuvent chercher à se venger de la personne qui les a offensées. Donc, c'est dans ça que c'est une attitude de haine. Je cherche à me venger de la personne qui m'a blessé. Alors, souvent, ça reste à l'état de pensée en tant que chrétien. Souvent, en tant que chrétien, on ne va pas se venger directement en le faisant. Mais ces personnes-là peuvent prendre un petit malin plaisir à réfléchir à de quelle manière je vais pouvoir éventuellement faire quelque chose. Et cela peut arriver chez un chrétien. Exhortation de Paul dans Romains 12, versets 19 à 21, qui nous dit de ne pas nous venger, de laisser agir la colère de Dieu, de faire du bien à son ennemi, de ne pas se laisser vaincre par le mal. Et en fait, en lui faisant du bien à notre ennemi, c'est comme on amassait du charbon ardent sur sa tête. Voilà, faites le bien, il y aura du mal sur lui, mais c'est pas nous qui le gérons, c'est Dieu. On peut laisser Dieu gérer ça, c'est pas à nous de le faire, c'est pas à nous de nous venger. Voilà. Et enfin, la dernière chose, hein, dernier fruit, c'est la querelle. Donc c'est pas vraiment un péché subtil, parce qu'il est visible, c'est des conflits ouverts entre différentes parties, des querelles d'église, au sein même d'une église, il peut y avoir des divisions. Très tristement, on a des exemples hein, récents d'églises chinoises qui a eu des divisions, voilà. Ça peut être aussi des querelles familiales. Et dans ce cas-là, bon, c'est purement un péché subtil, mais c'est pour vous montrer à quel point la colère qui était peut-être un péché subtil, et qu'on ne disait pas que c'était un péché, ça a laissé place au ressentiment, à la rancune, à l'hostilité, à la haine, pour finalement avoir des querelles. Vous voyez, si on ne traite pas le problème à sa source, ça peut escalader. Et finalement, la source de la colère, on a vu que c'était l'orgueil, et finalement, la source de l'orgueil, c'est quoi ? C'est l'impiété, ce qu'on a vu. Pour récapituler, voici trois pistes qui peuvent nous aider à combattre la colère et éviter que ça s'escalade à ce point-là. Premièrement, toujours regarder à la souveraineté de Dieu. Toujours regarder à la souveraineté de Dieu. Dieu ne fait pas pécher les autres contre nous, mais il permet le péché. Toujours dans un but. Romains 8, verset 28, on a vu hier que le but, c'était de nous rendre encore plus conformes à l'image de son Fils, d'être encore plus semblable, de ressembler encore plus à Jésus. On a l'exemple de Joseph, qui a été vendu par ses frères comme esclave en Égypte, et qui n'est pas devenu amer et qui leur a même pardonné. Dans Genèse 45, verset 8. Le mal que vous vouliez faire, Dieu l'a transformé en bien. Souveraineté de Dieu. Les comportements des autres personnes qui m'ont fâché sont sous le contrôle souverain de Dieu, et ça, c'est pour mon bien. Ce que je ne dis pas, c'est qu'on a déjà dit hier, mais que les circonstances mauvaises sont bonnes, ou elles-mêmes vont contribuer à notre bien, mais c'est l'issue que Dieu va donner à ces circonstances qui vont contribuer à notre bien. Première piste, regardez toujours à la souveraineté de Dieu. Deuxième piste, demandez à Dieu de nous rendre capables de grandir dans l'amour. Demandez à Dieu de nous rendre capables de grandir dans l'amour. Demandez à Dieu de nous aider à grandir dans l'amour de l'autre. Grandir dans l'amour. Et selon 1 Pierre 4, verset 8, il est dit, « Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. » L'amour peut couvrir une foule de petits torts à notre effet. J'ai bien conscience que c'est plus difficile pour les péchés graves de dire « Ok, bon, c'est juste l'amour. » Mais en tout cas, pour les péchés acceptables, l'amour peut couvrir ces péchés. Par exemple, revenons à notre mari dominateur qui rentre à la maison du travail. Il a une journée très chargée, très mauvaise discussion. Il a perdu des clients. Il rentre à la maison du travail épuisé. Et son épouse, qui est mère au foyer, qui n'a pas encore trouvé de travail, par exemple, donc voilà, et elle n'a pas préparé le dîner. Et bien, il peut se mettre en colère, bien sûr. Il va dire, oh, comment ça, t'as pas fait à manger, je me casse la tête à gagner de l'argent, et toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fais rien, t'es devant la télé, voilà. Mais si cet homme-là, si son mari a l'amour, non seulement il fermera les yeux sur ce qui le met en colère, mais en plus, il aidera sa femme à faire à manger. On peut suivre l'exemple de Jésus, qui était notre Seigneur, qui est notre Seigneur, qui est notre Dieu, et qui lui a aussi accompli la tâche la plus ingrate. Vous vous rappelez, c'est quoi la tâche la plus ingrate ?
Laver
les pieds de ses disciples. Jean 13, versets 1 à 15. Il a montré de manière visible qu'il était venu non pas pour régner sur terre, mais qu'il était venu pour servir, afin que nous ayons aussi ce cœur de serviteur. Cet amour se cherche ardemment. Il grandit progressivement au fur et à mesure que l'on cherche. Il ne vient pas d'un coup, hop, j'ai l'amour. C'est quelque chose qui se cultive. Selon 1 Corinthiens 13, verset 5, l'amour ne s'irrite pas. Selon Jacques 3, verset 5 à 12, il est dit que la langue, notre langue, quand on parle, nos paroles peuvent causer des dégâts énormes à notre entourage. Et justement, grâce à l'amour, si on est victime de choses qui ont été dites de la part d'autres, alors on va laisser l'amour s'emparer de nous. Et cet amour, il ne vient pas de quelque chose que je produis, il vient du Saint-Esprit. Ça renvoie aux sept pistes qu'on avait dit et parmi lesquelles compter sur le Saint-Esprit. Et enfin, selon 1 Corinthiens 13, verset 5, toujours, l'amour n'éprouve pas de rancune. En français courant. 1 Corinthiens 13, verset 5, l'amour n'éprouve pas de rancune. Il enlève cette tendance de garder à l'esprit les torts commis contre nous. On ne peut pas dire je peux pardonner mais ne pas oublier. Si vraiment on a l'amour. La rancune, elle est nourrie avec le temps. Et il faut cesser de se rappeler ses torts. Ce qui ne signifie pas effacer de sa mémoire, parce que c'est impossible. Voilà. Quelqu'un m'a fait du tort, ok, je ne peux pas l'effacer, mais je vais arrêter de le ressasser, surtout de le dire aux autres, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui alimente encore plus le fait de dire aux autres, les autres, ah oui, tu m'avais dit ça, est-ce que, tac, tac, tac. Et vraiment, chercher à laisser l'amour couvrir cette multitude de péchés, et notamment les torts qui ont été commis contre nous. Mais si par accident, je sais pas, j'ai une discussion et ça revient dans ma tête. Ah oui, cette personne-là m'avait rejeté à tel âge, machin. Rejeter cette rancune qu'on pourrait avoir immédiatement par le Saint-Esprit en nous. Première piste, c'était regarder toujours la souveraineté de Dieu. Dieu est au contrôle. Tout ça est pour mon bien. Deuxième chose, c'était de demander à Dieu de me rendre capable de grandir dans l'amour. Et la troisième chose, c'est d'apprendre à pardonner comme Dieu nous a pardonné. Apprendre à pardonner comme Dieu nous a pardonné. En fait, pour cet exemple-là, c'est très simple. On va regarder Matthieu 18, versets 21 à 35. Est-ce que, Samuel, c'est possible que tu le lises dans le micro ?
Alors Pierre s'approcha de lui et dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, le serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.
Merci. Merci, Sapa. Donc, je paraphrase très rapidement pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. On a Jésus qui raconte une parabole et donc d'un serviteur qui doit 10 000 deniers à son roi. Et ce roi lui dit, bah, il va falloir que tu me rembourses, donc voir que tu vends tous tes biens, tout va m'appartenir. Ce serviteur le supplie, s'il te plaît, enfin, permets-moi de rembourser ma dette, laisse-moi un peu plus de temps. Et tellement il est insistant, bah, le roi, dans sa grâce, j'ai envie de dire, bah, lui dit, ok, je te remets la dette. J'efface cette dette, okay, de 200 000 deniers, de 10 000 deniers, pardon. Ce serviteur, ok, il a sa dette qui est remise, ok, en gros, il devait un certain nombre d'argent, et maintenant c'est bon, il n'a plus cet argent qu'il doit. Il se balade, et il voit un autre serviteur qui lui doit de l'argent. Et le serviteur, pareil, l'autre serviteur lui dit, mais est-ce que tu peux me permettre d'essayer encore plus de temps avant de te rembourser? Et il lui dit, non, c'est mort et tout, et en fait tu vas aller en prison parce que j'ai toujours pas eu l'argent. Tant que tu ne vas pas rembourser, tu iras en prison. Et puis, du coup, les autres qui ont lu ça, dans l'entourage du premier serviteur, ils vont rapporter ça au roi, et le roi lui dit, bah, je t'avais remis la dette, et pourquoi tu n'en as pas fait de même avec ton compagnon? Et du coup, il est puni. Donc Pierre, juste avant ça, cette parabole, il demande combien de fois je dois pardonner. Et la parabole que Jésus raconte n'insiste pas sur le nombre de fois qu'il faut pardonner, mais sur quelle base il faut nous pardonner les uns les autres. Sur quelle base je me base pour pardonner à mon frère ou à ma sœur. Donc, je reprends l'histoire et on va vraiment l'analyser pour voir comment on pourrait l'appliquer à la colère. Un serviteur doit 10 000 deniers à son roi. Si on regarde le cours de l'argent par rapport à aujourd'hui, etc., ça équivaut à peu près 200 000 années de salaire d'un ouvrier de l'époque. 10 000 deniers, c'est 200 000 années de salaire d'un ouvrier de l'époque, soit environ 6 milliards d'euros aujourd'hui. Je sais pas si c'est, parce que les deniers, tout ça, ça vous... Enfin voilà, mais c'est bien de voir par rapport au coût de la vie, au niveau de vie de l'époque, et de transposer aujourd'hui, ça fait environ 6 milliards d'euros. Le serviteur devait 6 milliards d'euros. En fait, c'est plus qu'une parabole, pour ceux qui aiment les maths, c'est une hyperbole. Jamais un serviteur n'aurait pu accumuler une telle dette. Impossible. Pas. C'est... Voilà. Mais Jésus utilise souvent des images, mais des fois qui sont tellement, pas grotesques, mais énormes, des exagérations, des hyperboles en fait. En français aussi, ça existe en hyperbole, mais c'est ça. En français. Ouais, désolé, c'est mon côté maths qui... et du coup le serviteur supplie le roi d'être patient, de lui laisser le temps de rembourser la dette. Ce remboursement, il faut savoir qu'il aurait été impossible car jamais on n'aurait pu rembourser un tel montant. pour 6 milliards d'euros. C'est comme si tu disais, ah, s'il te plaît, tu peux me les rembourser. Tu sens que tu peux pas. C'est pour l'image. Mais le roi a eu pitié de lui et lui a remis l'ensemble de sa dette. Il a effacé sa dette. Waouh. Ce serviteur, il a quitté le roi, il va rencontrer l'autre serviteur et qui lui devait 100 deniers. Ça fait environ 10 000 euros. Donc environ par rapport à un salaire moyen annuel, un tiers de ce salaire annuel. 10 000 euros, environ un tiers d'un salaire annuel. L'autre serviteur, donc ça c'est possible, l'autre serviteur donc, demande grâce, mais celui dont la dette a été remise, de 6 milliards d'euros, il refuse et le fait jeter en prison. On voit que le message de cette hyperbole, cette parabole, est centré sur l'énorme différence des dettes. D'un côté 6 milliards d'euros, de l'autre côté 10 000. Et en fait, la dette du premier serviteur, c'est une image de celle que nous avons envers Dieu, cette dette qu'on a envers Dieu sur le plan moral et spirituel. À cause de notre péché en nous, depuis Adam, la dette est énorme aux yeux d'un Dieu saint et de sa gloire. Si un seul péché, je ne peux pas, parce que enfin, Dieu ne peut pas tolérer, parce que Dieu est saint et que je suis pas en accord par rapport à sa gloire. Et c'est cela qui détermine la gravité du péché, et non le péché en lui-même. C'est peut-être un peu flou, je vais prendre un exemple. Imaginons qu'Éric Chancel a un tapis qu'il a acheté à Aldi. Voilà. Un petit tapis, voilà, qu'il a acheté à Aldi. Et imaginons que Grace Moka Aldi Mavinga a un magnifique tapis persan. Genre plusieurs millions d'euros de valeur. Ok ? Je fais couler sans faire exprès, du ketchup sur une tache de ketchup sur le tapis d'Éric Chancel. Et je fais la même trace sur le magnifique tapis de Grasse. On est d'accord, c'est la même tâche. L'action est identique. Mais l'impact de cette tâche n'a pas la même valeur que ce soit sur le premier ou le deuxième tapis. L'étendue des dégâts est déterminée par la valeur du tapis et non par la taille de la tâche. Alors je dis pas que Dieu est un tapis de millions d'euros, mais c'est vraiment une image pour vous dire que notre dette envers Dieu, qui vaut plus qu'un tapis de millions d'euros, n'est absolument pas remboursable, et nous sommes tous ce premier serviteur à qui cette dette a été remise. Et donc, quid de la dette ? Qu'est-ce qui va se passer avec cette dette de cet homme ? Est-ce que le roi il va juste l'oublier ? Parce que, en l'effaçant, cette dette, le roi a perdu instantanément 8 milliards d'euros. T'imagines, c'est comme, je sais pas, c'est... Plus de 100 ans de loyer, de. Enfin, je dis non, tu payes plus ton loyer, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et du coup, le propriétaire, il n'aura pas reçu son argent. Donc ça lui a énormément coûté. Et tout comme cela a coûté à Dieu de nous pardonner par la mort de son fils Jésus. Donc maintenant, on va voir comment on peut appliquer ça par rapport à la colère. La dette que les autres ont envers nous. Qu'ils ont procuré de la colère envers nous est totalement insignifiant par rapport à la dette que nous on a par rapport à Dieu. Il ne faut pas minimiser la gravité des blessures et des dommages commis, mais concrètement 10 000 euros ça représente déjà énormément dans la parabole. Enfin, c'est quand même pas mal 10 000 euros hein, quand je fais 10 000 euros à quelqu'un, mais c'est pas autant que les 6 milliards qui représentent en fait l'atteinte à la sainteté et à la gloire de Dieu. Quels que soient les dommages qu'on a reçus des autres, ce n'est pas aussi grave que nos dommages qu'on a commis à Dieu à travers notre péché. Il faut reconnaître que nous sommes débiteurs envers Dieu parce que nous péchons constamment contre lui. Encore aujourd'hui, ça nous arrive de pécher, on l'a vu, hein, Galates 5, verset 16, 17, verset 17. La chair habite en moi et elle a des désirs qui sont contraires à l'esprit, et de sorte que je ne fais pas ce que je veux. Et on peut prier, enfin, de cette manière. Mon Dieu, cela m'a fait terriblement mal, mais je suis infiniment plus coupable à ton égard. Le péché de cette personne contre moi n'est rien comparé à mon péché contre toi. Et parce que tu m'as pardonné, moi aussi du fond du cœur, je lui pardonne. Cette prière, elle n'est pas magique. Surtout que notre chair, notre nature pécheresse n'abandonne pas si facilement. Mais ça donne du sens au verset que j'ai eu tout à l'heure qui disait que tout comme Christ nous a pardonné, nous aussi, pardonnons les uns les autres. peut-être il y a des personnes qui ont peut-être fait certains commentaires donc, par rapport à cela. Donc voici quelques réponses que l'auteur avait déjà avancées. Ce n'était pas, dans ce cadre-là, ce n'était pas l'objectif d'examiner en détail chaque souffrance qui ont pu provoquer en nous la colère. Voilà, ce n'est pas l'objectif de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et je pense aussi que les chrétiens ne sont pas des paillassons, que les autres devraient abuser de nous en permanence et qu'on devrait leur laisser nous marcher dessus. Ce n'est pas ce que je dis non plus. Mais même si c'était le cas, il nous faut veiller à ne pas pécher. En conclusion, on a vu que la colère était pécheresse. Malgré le comportement fautif des autres, ma colère ne peut jamais être excusée par le comportement fautif des autres. Ce faisant, je ne minimise pas le péché des autres, mais on ne répare pas une injustice par une autre. Et Jacques 1, verset 20 dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, on ne répare pas une injustice par une autre. Le péché de celui qui nous a fait du mal ne justifie pas notre péché de colère. Et je rappelle les trois pistes. Regardez toujours la souveraineté de Dieu, demandez à Dieu de pouvoir grandir dans l'amour, et enfin apprendre à pardonner comme Dieu nous a pardonné. Je vous invite à prier pour terminer. C'est entre Dieu, tu vois que le sujet de la colère est complexe, Seigneur, et peut-être que certaines personnes ici pensaient que leur colère était justifiée, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour que tu puisses éclairer les frères et sœurs qui peut-être ont ce sentiment de colère et qui ont conscience maintenant que c'est un péché. C'est un péché selon ta parole. Je te prie, Seigneur, que tu les aides non seulement à l'identifier, mais également à vouloir le combattre pour ne pas se laisser aller au ressentiment, à la rancune, à l'hostilité et aller jusqu'à la haine ou des querelles, Seigneur. Je te prie vraiment pour que ton amour couvre cette multitude de péchés, Seigneur. Et je te demande pardon encore au nom de nous tous, Seigneur, pour tous les péchés que nous avons commis et que nous commettons encore, Seigneur. Et nous sommes infiniment reconnaissants de ce que, dans ta grâce, tu nous pardonnes jour après jour. Et ce n'est pas une excuse pour nous, mais Seigneur, juste te dire un grand merci pour ça. Merci encore pour cela et te prie toutes ces choses au nom de Jésus-Christ.